partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Une botte jaune dans une flaque d'eau, une course effrénée à travers les champs de blé, un chant d'oiseaux caché sur la cime des arbres. Le bonheur, très souvent, est constitué de petits rendez-vous avec la beauté du grand tout. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez bien compris qu'il y a au moins un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas rater. Fidèles auditrices, fidèles auditeurs, souriez, vous n'êtes pas filmés, mais vous êtes bien à l'Asperger Café, l'émission qui, une fois tous les deux mois, tel un soleil de joie, vous fait rayonner. L'Asperger Café, c'est vous, c'est nous, ce sont eux, tous différents et pourtant tous semblables. Des êtres passionnés avec un grand cœur qui bat et une vision très singulière de la vie. Des êtres qui ont envie de partager, de donner, d'aimer. Je parle ici des personnes diagnostiquées autistes Asperger. Cette différence presque invisible, mais qui souvent les coupe de la vie. Ici à l'Asperger Café, une fois tous les deux mois sur IDFM 98.0 et sur IDFM 98.fr, ce sont eux qui sont aux commandes. Alors attachez vos ceintures, venez, embarquez et apprêtez-vous à plonger dans un monde riche et coloré, un monde qui saura vous surprendre, vous ravir et vous étonner. Un monde qui manifeste la vraie, la profonde humanité. Aujourd'hui, avec moi dans les studios, on est un peu moins nombreux que ce qu'on avait prévu initialement, mais on est quand même très content d'être là. Qui avons-nous ici ? Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui Lucas ?
Bah moi je vais bien.
Super.
Merci.
Ça fait plaisir de te voir.
Au moins il n'y a pas les travaux sur la ligne H.
Exactement. Et ça fait du bien parce qu'à chaque fois c'est un peu compliqué. Et cette fois-ci du coup ça s'est plutôt bien passé. Raphaël n'est pas là avec nous, il nous rejoindra plus tard par les ondes téléphoniques. Qui est-ce qu'on a d'autre à ma droite?
Bonjour
Paolo. Merci. Comment vas-tu?
Bien et vous?
Ça va, est-ce que tu pourrais parler dans le micro? Pardon. Paolo
Ça va.
Ah c'est mieux quand on entend ta voix.
Donc je ne suis pas à l'habitude à la ligne H mais elle a fonctionné hein.
Ok super, ouais. Tu es en forme aujourd'hui ?
Ouais, ça va.
Ouais, ok, trop bien. On a qui d'autre ? Félicien, bonjour Félicien.
Bonjour à tous.
Comment ça va Félicien ?
Ça va à peu près, il fait pas très beau mais on fait aller. Voilà.
C'est vrai, heureusement on continue à rayonner de l'intérieur donc ça va. Tu as passé une partie de tes examens du coup donc
Pas totalement, non, il me reste l'oral à passer de formation musicale et le cursus... Le concours pour rentrer en DEM d'improvisation. Okay. C'est pas l'examen DEM. Hein. Je peux pas vous dire encore combien d'années c'est. Je crois que c'est 2 ans de cycle. Je sais pas.
D'accord. Ok, super. Et, voilà. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que tu vas nous faire écouter tout à l'heure un des morceaux sur lequel tu travailles. C'est bien ça?
Exactement. Voilà.
Ok, très bien.
Je vous le dirai tout à l'heure.
Oui, super. Et nous avons surtout à l'antenne, normalement, si tout se passe bien, notre invité du jour, Séverine Luquet. Est-ce que tu es avec nous, Séverine ?
Oui, bonjour à tous.
Incroyable, bienvenue Séverine.
Ben, merci de m'accueillir dans votre émission.
Ben, avec plaisir, c'est ta première antenne ?
Oui, tout à fait, ouais.
Waouh, grand moment. Et comment tu te sens, toi ?
Ça va, un peu stressé quand même.
Ah, ben, c'est normal, on passe tous par là. Ben, ici, il y a beaucoup d'imprévus en plus à gérer tout le temps, donc à chaque fois des nouveautés. Est-ce que peut-être tu pourrais te présenter rapidement pour les auditrices
et
auditeurs ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis maman d'un ado de 14 ans qui a reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme en 2010, quand il avait 3 ans. Et en 2015, donc, j'ai créé un site qui s'appelle Je suis un AST afin d'aider les proches et les familles d'enfants et d'adolescents autistes.
Super. Et c'est quelque chose maintenant qui te prend la plupart de ton temps, hein, c'est ça ?
Oui. Ouais. Bah là, en fait, maintenant, j'y consacre tout mon temps.
D'accord. Ok. Donc
nouveau,
il y a beaucoup de répondants.
C'est un choix que j'ai fait il y a peu de temps.
Ah oui. D'accord. Et c'est donc pour le moment, en tout cas, le blog, il est quand même suffisamment diffusé. Tu arrives à pouvoir être visible ?
En termes de référencement, oui, c'est pas mal du tout. Hein. Il y a du monde qui passe dessus, ouais.
Ah bah super. Parce que c'est vrai que bah, maintenant, l'Asperger Café s'apprête à souffler sa 10e bougie. Et même si bon, les statistiques ne sont pas tout à fait à jour, mais on disait déjà à une époque qu'une naissance sur 100 environ voit naître une personne diagnostiquée autiste Asperger. Et à l'époque où, où toi, tu as eu... quelque part la chance de découvrir tout cet univers, c'est vrai qu'il n'y avait absolument aucune information sur, sur le sujet.
Non, non, c'est vrai que c'était très difficile de trouver de l'information à l'époque, hein, que ce soit sur Internet ou... Enfin, il y avait de l'information, mais beaucoup en anglais, en français, on ne trouvait pas grand-chose.
Ouais. Et aujourd'hui, probablement, je pense que ça a évolué.
Oui, oui, ça évolue, heureusement. Après, on est quand même loin de répondre à tous les besoins. Hein. Il manque encore beaucoup. Mmh. Mais oui, oui, ça évolue. Hein. Sur Internet, ça se développe beaucoup. Hein.
Ok. On en reparlera en deuxième partie d'émission, donc à la fois pour le moment qui t'est consacré, et aussi un moment où, en fait, on parlera un peu des évolutions par rapport à l'autisme Asperger, ce qu'on en sait un peu maintenant, et peut-être les ressources qui peuvent aider différentes personnes, les personnes directement concernées, mais aussi les personnes comme toi qui peuvent être parents, par exemple, d'un enfant qui est diagnostiqué dans le spectre autistique, et du coup voir que aujourd'hui il y a énormément de ressources qui existent, et notamment grâce à une personne qui nous est très chère, puisque c'est la fondatrice de l'association, Myriam Sarbach, qui est notre lumineuse étoile, qui est toujours en train de briller quelque part. Je suis sûr qu'elle doit tendre l'oreille à ce moment. Et donc elle a créé son association, imaginé un espace de liberté finalement pour les personnes qui sont diagnostiquées autistes Asperger, et elle voulait créer un espace qui permettrait, au fil des émissions, à travers l'Asperger Café, d'effacer les barrières qui nous coupent de la différence et de nous faire prendre conscience, surtout, que dans le fond, on est tous des êtres humains et qu'on a tous beaucoup à nous apporter. Asperger Amitié, c'est avant tout une aventure humaine, et cette association, c'est une association où on fait beaucoup de rencontres et où on apprend énormément. Donc j'en profite puisqu'on est là pour vous dire que si vous êtes intéressé, l'association est actuellement à la recherche d'éducateurs et de psychologues pour animer les groupes d'habileté sociale, et les inscriptions se font depuis mai, à partir de 10 ans jusqu'à 30 ans. C'est des demandes qui sont de plus en plus nombreuses, et c'est pour cette raison que maintenant il y a plusieurs groupes, les 13-16 ans, les 16-17 ans, un deuxième groupe de femmes Asperger et un troisième groupe pour les 30 ans et plus. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez avoir plus d'informations, surtout n'hésitez pas, envoyez un mail à info@aspergeramitié.com et nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Au programme aujourd'hui, encore et toujours les chroniques qui vous permettront de plonger directement dans l'univers des autistes Asperger. Puis en seconde partie, nous avons la grande chance de rencontrer Séverine Luquet, qui est aussi donc graphiste, illustratrice de presse, et qui, grâce à son fils Hugo, a pu découvrir tout le monde de l'autisme Asperger. Elle est passée par un parcours quand même assez compliqué à l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Et donc, elle a créé ce blog « Je suis un as » pour aider tous les parents ou les autres personnes qui pourraient se retrouver dans cette même situation. Et pour conclure cette belle émission, on finira donc sur les coups de cœur, les coups de griffe du mois, de chacun et chacune, peut-être même de Séverine, on n'en sait rien. Voilà. Mais donc, juste avant, place à la musique avec l'étonnant tableau de chasse de Claire Diterzy. Alors, restez avec nous et on se retrouve juste après pour les chroniques.
Ma proie libertine, vierge.
Fidèles auditrices, fidèles auditeurs, vous êtes toujours à l'Asperger Café et c'est le moment des chroniques. La pièce est noire, le siège est rembourré et rouge, le sol est dur et souvent il l'entend craquer. Le silence se fait, ça y est, c'est le moment. Il retient sa respiration, la qualité de l'air change, l'attention est au centre. Le rideau s'ouvre et pour lui c'est tout un monde. Une réalité enchantée à laquelle il se doit le plus souvent possible de participer. Lucas, qu'as-tu déniché pour nous aujourd'hui ?
Eh bien, pour cette dernière de la saison, bah, puisque c'est la dernière émission de la saison,
tout à fait.
Je ne vais pas présenter un spectacle, ni même deux, mais deux et après une actualité.
Deux spectacles et une actualité, dis donc, on a de la chance.
La première... J'ai entendu récemment, mais nous allons refaire une adaptation en comédie musicale du Roi Lion.
Ah ouais, super, ok.
Le Roi Lion, comme vous savez tous, c'est l'un des spectacles musicaux les plus joués au monde depuis Broadway, depuis D'accord. 1997.
Ah ouais.
Et il a été vu par plus de 100 millions de spectateurs et produite dans 9 langues différentes, dont la nôtre.
D'accord, incroyable. Toi, tu as déjà vu un spectacle du Roi Lion ?
J'ai vu le long métrage il y a longtemps, mais le spectacle musical, j'en voyais quelques extraits, mais depuis mon ancienne école de comédie musicale, donc c'est un des grands classiques.
D'accord, ok, super. Donc là, il y a une nouvelle version, c'est ça ?
En ce moment, oui.
Ok, d'accord, très bien.
Ensuite, le deuxième spectacle, oui, j'ai raccourci. Le deuxième spectacle, je vais parler des producteurs de Mel Brooks.
Ah oui.
Il a été initialement mis en scène par Mel Brooks, mais aujourd'hui, c'est Alexis Michalik qui met en scène ce spectacle musical.
Monsieur Alexis Michalik, hein, parce que c'est vrai que ses pièces valent vraiment le détour.
C'est aussi un féru des comédies musicales et pour lui, Mel Brooks est une référence et une source d'inspiration. La question n'est pas de savoir pourquoi monter The Producer. La question est de savoir pourquoi The Producer n'a-t-il jamais été monté à Paris.
Ah ouais, génial. Super.
Le spectacle a été un tel succès dans le monde, il est culturellement proche du public français. La comédie est hilarante et ça, j'en doute pas. Les chansons, pas moins.
Donc c'est dans ta liste, ta top liste de choses à faire bientôt.
Et parmi mes vieux souvenirs aussi, parce que je me rappelle, il y a longtemps, j'avais participé à un stage où l'on montait justement une partie de cette comédie musicale. Et je me rappelle un peu quelques chansons, mais pas très bien.
Bah oui, on va te rafraîchir un peu la mémoire.
Et le spectacle... En vrai, se joue actuellement jusqu'au 26 juin 2022.
D'accord. Où ça ?
J'ai oublié.
Ok. On regardera sur Internet. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Lucas.
Mais l'actualité ?
Ah oui, la troisième info, alors.
L'actualité, c'est qu'en ce moment, je vais participer au spectacle qui va se dérouler à Ivry par l'association musicale Le Lac en Fête à Ivry-Courcouronnes.
Super. Ok.
Et ça va être un thème très comique qui va exposer une nouvelle adaptation de la légende arthurienne.
Ok, génial. Et toi, tu seras donc figurant.
C'est exact.
Incroyable, super. Et bah, tu nous raconteras tout ça. Merci beaucoup, Lucas. On quitte maintenant l'univers du théâtre pour rejoindre un monde un peu plus imaginaire. Un jour, c'est un pirate. Le lendemain, il se transforme en robot armé. Il pilote des avions, construit des mondes, voyage de quête en quête dans des univers où rien n'est impossible. Sa vie, il a décidé de la vivre sans limite. Et lorsqu'il part à l'aventure, même le soleil couchant ne saurait l'arrêter. Raphaël, quelle a été ta découverte du mois ? Est-ce que tu nous entends, Raphaël ?
Allô, vous m'entendez ?
Ah, excellent. Est-ce que toi, tu nous entends ?
Oui.
Parfait. Merci la technologie. C'est à toi, Raphaël.
Bon, désolé de ne pas être présent à la radio.
C'est pas grave, on sent que tu es tout proche.
Bon, je dois dire que ces jours-là, je suis un peu stressé pour avoir un appartement et depuis, rien que d'y penser, j'ai fini par oublier la radio.
Bien sûr, la liberté qui arrive, c'est normal que ce soit un peu stressant.
Bon, c'était quoi la question
La question c'est, quelle est ta chronique du jour ? Je vais t'aider. DC Comics et Marvel.
Ma chronique du jour, je vais parler sur DC Comics et Marvel.
Ok, super.
Qu'est-ce qu'on sait sur DC Comics et Marvel ? Eh bien, ça parle des héros ou des héroïnes.
Eh oui.
Comment les créateurs de ces DC Comics et Marvel puissent obtenir autant de succès, malgré que même si Marvel est plus haut que DC Comics, il y a quand même des héros qu'on préfère dans, parmi les DC Comics et Marvel.
Et c'est vrai que c'est très populaire aujourd'hui. Hein. Les super-héros, maintenant, il y en a partout, alors qu'à une époque, c'était plutôt un peu caché, quoi.
Oh, totalement caché, oui. Caché comment ? Dans les comics ou dans les bandes dessinées ?
Bah oui, c'est ça. Et c'était plus pour
évidemment, ils sont
utilisateurs
bien
aguerris, on va dire, ou vraiment
ils
grands
sont
fans.
Dans les livres.
Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Alors que maintenant, on les voit partout.
On connaît tous les héros connus dans Marvel et même un héros très connu dans DC Comics.
Oui.
Mais en tout cas, malgré ça, il y a quand même une certaine rivalité entre Marvel et DC Comics. Hein.
Oui, c'est sûr. Et c'est qui ton héros préféré alors ?
Pour mon héros préféré dans DC Comics, c'est Batman.
Ah, Batman. Et pourquoi
un
Batman ?
Héros qui a une physique et une mentale d'esprit aussi acérée pour vaincre les criminels ouais. dans Gotham City.
Bah oui, oui. Un milliard d'argentis, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Oui. Et donc évidemment, le personnage de Batman est si sombre que même son passé est sombre, mais les criminels autant plus que lui aussi.
C'est vrai.
Et en plus, son credo, c'est de ne tuer personne. Mais bon, ça dépend de l'univers de Batman qu'on décide.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur DC Comics ou...
Sur Marvel, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup autant de héros que dans DC Comics, hein, je dois dire.
Ouais, ok. Très bien. Et
c'est
toi,
vrai,
tu suis les films aussi ?
Qu'on se mélange de l'un à l'autre, ouais. Mais qu'il y a même des héros qu'on peut sous-estimer sans qu'on puisse en parler beaucoup plus sur eux.
Ouais, c'est vrai. Très bien. Eh ben, merci Raphaël pour cette parenthèse sublimée à base de super-héros et de super-pouvoirs. Maintenant, on va faire un rapide retour à la réalité avec notre prochaine chronique. Assoiffé de culture, avide de connaissances, il manie les mots avec aisance et secrètement réussit à leur donner un nouveau sens. Il décrypte l'actualité, s'interroge sur le monde... des faits, et son téléphone comme fidèle allié, il part à la recherche de la vérité. Paolo, qu'est-ce qui a retenu ton attention ce mois-ci ?
Donc, rebonjour.
Bonjour.
Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du thème des vacances. Je vous donnerai en premier donc, l'étymologie.
Oui.
Donc, la raison pour laquelle il a été créé, d'où ça vient, donc tout ce qui va avec.
Uh-huh.
Et en deuxième, je vous dirai l'utilité, ce qui est bénéfique... pour le mot des vacances, pour les élèves,
okay.
Pour les jeunes travailleurs, pour les personnes...
Même si on n'a pas besoin d'être convaincu sur l'utilité des vacances, je pense que tout le monde est à peu près d'accord que c'est très utile, les vacances.
Oh, mais y a des personnes qui découvrent le mot vacances. J'ai vu dernièrement un reportage des personnes de... Je ne sais plus quelle...
Peut-être des Japonais pas,
non, attendez. Quelle,
ethnie.
Quelle ethnie qui découvrait le monde, la métropole, etc. Qui
disait
que... Lorsqu'ils découvraient que les Blancs, ils appelaient ça comme ça dans le reportage, les Blancs étaient contents des vacances. Bah, en même temps, si eux, ils sont tout le temps, ils résident tout le temps en forêt, ils s'occupent de leur village. Donc eux, ils découvraient le mot vacances Ils disaient pourquoi les Blancs sont contents, bah parce que comme on travaille tout le temps, on n'est pas tout le temps en vacances, on a juste le week-end.
Bien sûr, bien sûr.
Donc voilà.
C'est pas les mêmes sources de stress aussi. Eux, ils ont pas la technologie qui vient là.
Aussi.
Bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire sur les vacances?
Bah, je vous le dirai prochainement.
Prochainement. Oui, maintenant. Non.
D'accord. Ok. Ouais. Ah, d'accord. Ah, ok.
Merci. Donc, il était parti en vacances, mais il est revenu. Okay. C'est bon.
Donc. Ce qu'il y a à dire sur les vacances, donc en fait, l'idée des vacances, elle n'est pas nouvelle en fait. Elle vient du latin vacare, j'ai pas l'accent.
Ouais.
Ça signifie être vide, c'est avoir du temps.
Être vide.
Et en fait, ça participe au présent, nos vacants. Donc on fit vacant, d'où fut tiré le mot vacances. Et en fait, donc, l'idée des vacances n'est pas nouvelle. Donc, en fait, c'est l'empereur romain Adrien avec un H qui avait fait construire une superbe villa dans les environs de Tivoli. Et il voulait fuir Rome pendant les périodes de forte chaleur. Du coup, lorsqu'il y avait de forte chaleur, il y allait.
D'accord, ah oui.
Et
c'était son break à lui, quoi. Il fait trop chaud, donc moi je pars. Ouais.
Comme nous faisons tous.
Ouais, ouais, ouais. Enfin, nous, on a plutôt tendance à chercher les endroits où il fait chaud. Mais...
Pour certains Parisiens, c'est connu pour Deauville. Ils y vont à 2 heures de Paris, même pour le week-end.
Ils profitent de
la mer et à 2 heures, ils y sont.
C'est vrai.
Après, en voiture. Et donc, en 1680, dans le premier dictionnaire, Monolingue, le dictionnaire François de Pierre Richelet, pouvait à la fois offrir un article au singulier pour la vacance, hein. Terme qui, en parlant de manière bénéficiale, les bénéfices ecclésiastiques, j'ai du mal à le prononcer, n'a point de pluriel. Donc, et un second article de vacances au pluriel. Donc c'est un mot invariable, donc c'est toujours finissant par un S. Et en fait, avec une définition explicite, terme qui se dit en parlant de collège.
Oui, oui, ok.
Et ouais. Qui alors n'a point de singulier. Et donc pour nous, les vacances, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc nous on a le terme vacances parce que comme on a le thème tout le temps du travail, on travaille. Donc en semaine on travaille, le week-end on profite, en fait c'est des mini-cycles de vacances.
Ouais, donc, on peut dire ça, ouais.
On part et on revient, mais on profite pas vraiment. Tandis que les vacances c'est plus sur le long terme, c'est de 1 à 2 semaines. Et donc 1 à 2 semaines, mais en période scolaire.
D'accord,
donc
ouais.
En période de...
active.
D'été, on a, ouais. Voilà, ouais. Active. En période d'été, on a 2 mois. Donc ça, c'est un peu mieux.
C'est vrai, c'est vrai. Et ben oui. Et quand est-ce que c'est arrivé en France, alors les vacances, tu le sais un peu ça, ouais.
En 1680.
Ah oui, 1680.
Par le terme de Pierre Richelet.
Ouais.
En 1680.
Voilà. Eh ben merci et merci Paolo. Effectivement, on peut dire qu'on l'apprécie, notre temps libre. Nous qui avons si souvent la sensation d'en manquer, on se souvient d'ailleurs avec nostalgie de ce doux temps de l'enfance où on pouvait être affalé sur le canapé, et on pouvait juste passer notre matinée à regarder des séries animées. Et c'est ce petit saut dans le temps qui nous est proposé pour cette prochaine chronique. Elle vit dans un monde de paillettes, de couleurs affirmées et d'émotions décuplées. De sa vie, elle a chassé le gris et elle s'assume en être multicolore et étincelant, toujours bien entourée de ses centaines d'amis du soleil levant. Passionnée et passionnante, elle vous emmène en voyage dans un pays qui ne cesse de se réinventer et qui pétille incessamment comme un feu d'artifice éternel. Jessica, qu'est-ce que tu nous as rapporté de beau de l'Empire du soleil levant ?
Alors du coup, moi... Comme je vais vous parler en fait de l'âge d'or un peu des animaux en France, donc on s'en souvient tous. Si vous avez plus de 30 ans forcément, et si vous avez un peu moins de 30 ans, il y a surtout beaucoup d'émissions télévision qui en parlent à certaines périodes de l'année. Donc l'âge d'or des animaux en France avec Candy, Goldorak, les Chevaliers du Zodiac, etc.
Les Chevaliers du Zodiac, excuse-moi mais je suis obligé de t'interrompre pour ça, juste pour 2 secondes.
Voilà.
Parce que
exactement.
Ça, Personne n'oublie jamais, hein. Ça c'est des sons, à chaque fois qu'on les entend, on dit « Ah mais oui, les Chevaliers du Zodiac, le Club Dorothée !» Voilà. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette petite parenthèse,
oui,
excuse-moi.
Oui, obligé, mais c'était très bien. Mais surtout, on se souvient évidemment de certaines émissions cultes. On a eu Ricra 2, Club Dorothée, et même oui. Bien plus tard, il y a eu les collecteurs de Mini les Zouzous, donc c'est à partir de 13h30.
Ah ouais.
Vous pouvez voir ou redécouvrir, pour ceux qui connaissaient déjà, il y avait Lady Oscar, les Mystérieuses Cités d'Or et plein d'autres, hein, parce qu'ils en ont rediffusé pas mal. Donc nous, en France, on est plutôt chanceux parce qu'au niveau
ouais, c'est vrai, hein.
De l'offre des DVD, dit animé, un peu nostalgie, c'est assez généreux. Parce que moi, quand je viens en commençant, je vois les stands et il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais malheureusement, c'est pas vraiment le cas du manga papier.
Oui, c'est sûr.
On a toujours les mêmes rééditions des plus connues, donc des Dragon Ball, des Goldorak, etc. Ouais. etc. Ouais. Et il y a peut-être des petites exceptions chez les grands éditeurs, mais c'est pas grand-chose, quoi. Et donc, il y a certains animés nostalgiques qui n'ont pas cette chance, en fait, ce qui est dommage. Ouais. Mais il y a une entreprise qui s'appelle Black Box Edition
okay.
et qui vous permet de réaliser vos rêves. En fait, c'est une entreprise française qui a été fondée par des passionnés de manga en 2007. Donc à la base, ils faisaient que des animés nostalgiques.
Ouais.
Et puis en 2013, il y a Alexandre Regreni qui a l'idée de, bah, en fait, de proposer des projets d'édition de manga papier.
D'accord.
Donc c'est-à-dire qu'ils m'ont proposé un projet bah, en début, à une certaine période de l'année. Et du coup, c'est aux gens de voir s'ils veulent ce projet ou pas. À la suite de ça, bah, en fait, ils proposent plusieurs packs en fait, pour financer le projet.
D'accord.
Et donc on a le premier pack, c'est le pack mécène. Donc c'est-à-dire que vous avez une plaque en métal plus votre nom dans le manga plus bah, les mangas forcément de ce que vous avez commandé. Il y a le pack soutien où c'est le nom dans le manga et les mangas. Et enfin le pack normal, c'est juste les mangas en fait.
Ok, mais c'est un genre de et sondage là, en fait, qui est fait, c'est ça? Pour savoir quels projets sont choisis, au fait, c'est un genre de sondage. Enfin, il demande à plusieurs personnes et puis ils prennent.
Ah non, en fait, il a une page Facebook et il va, du coup, bah, en fait, proposer le projet.
Mais ce que tu appelles un projet, au fait, c'est quelque. Au fait, ce serait un manga qui existe déjà, par exemple.
Il va proposer une licence, par exemple, okay. Il va proposer Les Samouraïs de l'Éternel.
D'accord, ok. Ok, super.
Et une fois qu'il voit que bon, c'est bon, après ça dure sur plusieurs mois parce qu'il faut contacter les ayants droit au Japon, etc. etc.
Bien
c'est
sûr.
Pas juste on arrive, on traduit le truc et puis basta.
Ouais.
Donc, des fois ça dépend des projets qui sont pas soutenus parce que bon, les ayants droit finalement, non, finalement il n'y a pas assez d'argent. Enfin, ça,
bien
le
sûr,
monde de la petite édition, c'est assez compliqué.
Ouais.
Mais bon, cette entreprise permet quand même d'avoir des animés nostalgie en format papier.
Ouais, super, ok. Eh ben merci,
que
merci.
Que personne
pour,
d'autre ne propose.
Oui,
donc,
tout
ce
à
qui
fait.
Est quand même incroyable, quoi.
Eh ben merci beaucoup, Jessica. Toujours aussi pointu. Donc Black Box Edition, hein, oui. on retient. J'imagine que ça doit être le nom du site aussi, ou
c'est le nom du site.
Ouais, ok. Donc on ira chercher Black Box Edition et puis probablement on tombe dessus directement. Merci beaucoup, Jessica.
Voilà. Ils ont une page Facebook aussi, donc je pense que tu tombes très facilement dessus.
Ok, super. C'est fou quand même ce que quelques notes de musique peuvent nous transporter loin. Et ce n'est pas notre prochain chroniqueur qui dira le contraire. En un mot, il est artiste. Il crée des mondes, joue avec les émotions et transcende notre réalité ordinaire pour réussir, par un subtil jeu d'harmonie, à la rendre extraordinaire. Suspendu à ses accords, il tisse une toile de mille couleurs qui permet à l'oreille attentive et aguerrie de s'évader bien plus haut que les étoiles. Dans son monde, en clé de sol ou en clé de fa, chacune et chacun a sa juste place. Félicien, quelle est ton inspiration du moment ?
Eh bien, bonjour à tous, encore une fois, pour cette dernière émission avant l'été, je vais vous parler de l'arrangement musical.
Super.
Alors, à partir d'une œuvre musicale simple ou complexe, courte ou longue, On peut réaliser un arrangement. On change l'harmonie tout en gardant le même rythme et les mêmes notes ou en changeant les deux.
On peut changer le rythme donc dans un arrangement.
Oui, on peut. Ça peut être sous forme de variation, sous forme de. On peut même changer plein de choses, les instruments.
Il n'y a pas vraiment de règles.
On peut même enlever les instruments, faire que des voix. C'est...
D'accord.
D'ailleurs, on va en parler, je pense. C'est peut-être écrit.
D'accord.
On peut également y insérer des parties improvisées, enrichir le rythme en utilisant d'autres instruments ou des voix, du coup, ajouter des danseurs, etc. Donc, bien aussi des chanteurs, des. On peut même mettre un orchestre avec un chef d'orchestre. Il y a pas mal de possibilités.
Mmh.
Mais ça demande quand même peut-être plus de travail que la version originale. Enfin,
bien sûr, c'est une interprétation, voilà. En fait, un peu.
Et oui, ça peut être une interprétation, ça peut venir d'une composition, ça dépend. La réorganisation musicale comprend des transpositions et des transcriptions. Alors, pour rappel, la transposition est un changement dans l'intervalle des notes. J'avais déjà fait une chronique là-dessus.
Tout à fait, on s'en rappelle très bien.
Je ne sais plus quel mois c'était, mais bref. La transcription est une adaptation d'une composition écrite pour instrument ou ensemble instrumental ou vocal à un autre instrument. En exemple, Jean-Sébastien Bach, alors lui, il est super connu depuis un moment. C'est un compositeur qu'on admire
bien
tous.
Bien sûr, oui.
Il a fréquemment arrangé ses propres pièces. Debussy a fait un arrangement de la Gymnopédie 3 de Satie. Mais à ça, j'imagine que c'est des longs arrangements. Hein. Ça
Oui.
Pas mal de personnes qui se mobilisent pour y remédier, pour y travailler dessus.
Et toi, tu t'es déjà lancé dans un arrangement ?
Je ne sais pas. Non, je crois que j'ai fait une composition. J'ai pas beaucoup travaillé sur le site, sur le logiciel, pardon, MuseScore. Mais j'aimerais bien y goûter.
Ça viendra. Okay.
Ça serait bien,
ouais.
On peut également effectuer un arrangement à partir d'une chanson ou d'un texte en s'imprégnant de l'atmosphère qu'il dégage, comme les accords, les intervalles de 9e que je vous ai montré
tout
hier.
Tout à fait. C'était magnifique, ouais.
La voix est aussi un instrument d'arrangement musical. On l'utilise dans des logiciels, on module ses caractères aussi. Autotune et voix de robot. Ça, c'est dans les logiciels. Hein. Ça, je ne connais pas bien. Une même œuvre peut donner lieu à plusieurs variations adaptées à sa diffusion. Dans les musiques de films, de clips, ambiance commerciale, dans les magasins, voilà. Et bien d'autres encore. C'est maintenant le travail de professionnel, celui d'arrangeur musical, homme de l'ombre, entre autres, de chanteurs connus comme Jean-Michel Dufay, je ne sais plus.
D'accord.
Pour la chanson Avec le temps de Léo Ferré. Avec le temps, on va, tout ça, on va. Ça, c'est une chanson qui est très connue. Et Paul Mauriac pour la chanson La Bohème de Charles Aznavour.
D'accord.
Voilà.
Ok, super. Merci beaucoup, Félicien. Tu voulais partager un morceau de musique, du coup, avec nous ?
Alors, pour cette deuxième pause musicale, je vais vous passer un morceau que je vais jouer, du coup, au Conservatoire de Bobigny prochainement, le 27 mai. Et c'est donc un morceau de harpe.
Ok.
Et c'est le Duke, ça s'appelle Duke de Bernard Andrès. Très bonne écoute.
Très bien, merci beaucoup. Et on se retrouve donc juste après pour retrouver Séverine Luquet et lui poser tout plein de questions. À tout à l'heure. Thank you. fidèles auditrices, fidèles auditeurs, vous êtes toujours à l'Asperger Café et nous sommes maintenant en compagnie de Séverine Luquet. Tu es bien avec nous, Séverine ?
Oui, tout à fait.
Super. Eh bien, je vais commencer à la place de Raphaël car il n'est pas présent avec nous. Jessica, tu es avec nous ? Non. Raphaël, tu es avec nous ?
Oui, je suis là.
Ah, bah très bien. Donc c'est Jessica que j'ai pas. Très bien. Eh bien, Raphaël, je te propose peut-être de poser ta première question, alors.
Très bien.
Non. Tu veux que je la pose à ta place, peut-être.
Voyons. Je l'ai noté quelque part, la question.
Ok.
J'en suis sûr.
C'était... Ouais, ok. C'était par rapport à Hugo ?
Non, je crois, je l'ai perdu, en fait.
C'est pas grave, Raphaël. Donc, la question pour Séverine, c'était quand est-ce que vous avez découvert que votre enfant, Hugo, était autiste Asperger ? Et surtout, comment est-ce que vous avez réagi ?
Alors, bah, Hugo, j'ai découvert qu'il était autiste Asperger quand il avait 3 ans. Et en fait, comment j'ai réagi ? Bah, d'abord, j'étais en colère parce que je l'ai découvert toute seule. En fait, ça faisait 2 ans avec son père qu'on posait des questions aux médecins, aux professionnels de la petite enfance.
Ouais.
Et l'école dans laquelle il est rentré en petite section nous orientait vers un CAPP, donc c'est un centre d'adaptation psychopédagogique.
D'accord.
Où on nous a d'abord parlé de dysharmonie. Donc à l'époque, je lisais le livre « Même pas grave, l'échec scolaire, ça se soigne » d'Olivier Révol.
Ouais.
Et à la fin de ce livre, il y a un chapitre sur la dysharmonie. C'est là en fait que j'ai compris que c'était un terme médical. Et du coup, je suis allée sur Internet et j'ai découvert que la dysharmonie évolutive, c'était une classification française, alors que la classification internationale parlait d'autisme.
Ah ouais, d'accord.
Donc j'étais en colère parce que notre fils, il avait besoin d'aide, que l'on puisse monter un dossier pour lui, afin qu'il ait une aide humaine en classe. Et voilà, ça a été notre première réaction.
Ouais.
Mais après, ensuite, avec son papa, c'est sûr qu'on est passé par une phase de tristesse. Hein. On s'est demandé pourquoi ça lui arrive à lui, pourquoi ça lui arrive à nous, pourquoi ça nous arrive à nous, comment on allait pouvoir l'aider. On s'est senti seul, car il n'y avait pas beaucoup d'informations, comme on disait tout à l'heure, hein, accessibles en 2010. Hein.
Ouais.
Voilà.
Et même il y avait même pas donc de nom en fait qui était donné, c'est surtout ça qui est étrange, donc c'était.
Alors il y avait pas de nom, c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire que l'équipe qui était en place au CAPP, moi je leur ai dit si c'est de l'autisme, il faut nous en parler parce qu'on a besoin d'aide pour Hugo. Et on nous a dit, là on nous a parlé d'autisme en fait, hein. Il y avait un nom, mais c'est-à-dire que les médecins, les psychologues, tout ça, en tout cas là où on était, ils avaient peur d'en parler, et ils nous ont répondu, l'autisme c'est un mot qui fait peur aux parents, sauf que bah, en fait ça nous apportait pas de solution, hein, de mettre un terme, moi je pensais que c'était juste un terme dysharmonie qui était même pas médical en fait, c'était juste pour nous dire, il évolue pas de la même manière dans tous les domaines,
c'est
pas très grave, voilà. Mais bon, du coup, on n'avait pas les informations nécessaires du coup pour mettre en place l'aide dont Hugo avait besoin.
Bien sûr, et c'est, c'est en ce sens-là que le blog est très précieux aussi, j'imagine. Il doit y avoir ce genre d'informations justement.
C'est né de là en fait, hein, c'est sûr. Mais voilà, et après c'est sûr que ça, c'était un premier bilan, mais ensuite on a fait des vrais bilans donc au CREDA à Paris, qui se sont étalés sur plusieurs mois, et là on a eu le déroulé complet de toutes les problématiques de notre fils, avec un vrai diagnostic officiel,
Et plusieurs mois, parce que vous avez commencé assez tôt, parce que souvent c'est même des années aujourd'hui pour les personnes adultes qui cherchent à avoir un diagnostic.
Alors, c'est vrai que nous on a peut-être une chance, enfin qui est peut-être pas une chance aujourd'hui pour Hugo, mais c'est qu'en fait il a beaucoup de stéréotypies et ça a commencé déjà quand il avait 8-9 mois. Donc en fait nous, ça c'est vrai que ça nous interpellait beaucoup. Il y avait plein de choses où on se disait non, c'est vrai qu'il évolue bien dans d'autres domaines, mais ça c'est vrai qu'on s'est dit bon, c'est pas c'était quand même quelque chose qui était très visible et qui était pas que je voyais pas chez les autres enfants en fait.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien
et donc du coup, ça nous a vraiment mis la puce à l'oreille tôt, et c'est pour ça en fait que on a posé la question régulièrement et que on a cherché à savoir pourquoi il avait ça en fait.
Bien sûr, ouais. Ok. Voilà. D'accord. Merci pour ce partage, Félicien.
Alors j'avais deux questions à vous poser. Tout d'abord la première, donc c'est est-ce que votre fils se sent plus accepté par les autres ?
Est-ce que votre fils se sent plus accepté par les autres par sa différence à partir de maintenant, quoi, de l'époque d'aujourd'hui ?
C'est-à-dire... Alors non, pas vraiment. Pour le moment, sa différence n'est pas encore un atout. Même si lui, il commence à percevoir que ça peut l'être. Il me dit que ce qu'il aime, c'est qu'il s'intéresse à beaucoup de choses, qu'il a une vraie culture dans plein de domaines. Donc il s'aperçoit en fait que bah, ça peut avoir des avantages. Mais en fait, sa différence, ça le met surtout à l'écart. Hein. Au collège, on se cherche soi-même, mais aussi on se cherche à travers les autres. On se juge beaucoup, on cherche à avoir de la valeur parfois au détriment des autres. On s'associe aux personnes dans lesquelles on se retrouve. Et on utilise son propre langage, ses propres codes. Hein. L'adolescence, c'est quand même particulier. Et pour un enfant Asperger, ça, c'est une période certain, qui est compliquée.
Hein. Ouais.
Ouais. Et Hugo, là, c'est vrai qu'il est, il a plutôt du mal à être accepté, en tout cas à travers sa différence. Après, c'est un enfant qui, socialement, se débrouille vraiment bien. Donc, il a fait justement des groupes d'entraînement d'habileté sociale pendant des années.
Super. C'est bien de commencer tôt, ça. C'est
ouais, il a commencé tôt, oui, c'est bien de commencer tôt. Ça l'a vraiment aidé. Mais du coup, c'est vrai que il a quand même des copains, il a pas mal de copains, et voilà. Mais c'est vrai que l'autisme, comme c'est des enfants qu'il connaît depuis la maternelle, l'autisme, c'est un mot qui porte aujourd'hui, et du coup, les enfants ont tendance à le mettre un peu à l'écart des fois pour ça, mais de moins en moins. C'est vrai qu'en troisième, ça a été communément accepté quand même. Hein.
D'accord.
Mais c'est pas un atout encore.
Et c'est quelque chose dont on parle, hein. C'est pas quelque chose qui est du coup caché. Enfin, je veux dire, comment ça a été présenté par exemple au reste de la classe ou...
En fait, il y a eu différentes périodes où il y a eu des sensibilisations. Donc, quand il était en toute petite section, donc c'était de la sensibilisation plus à la différence dans sa classe. Il y avait une éducatrice spécialisée qui était là, qui a aussi appris aux autres enfants à interagir avec notre fils. Mmh. Et puis après, quand il est rentré au collège, il y a eu une grande après-midi de sensibilisation qui a été faite auprès de tout le collège.
D'accord, ouais.
Ouais. Voilà, ils ont présenté l'autisme. C'est une personne Asperger qui est venue en cas de.
C'est génial, ça. Ça, c'est vraiment voilà, c'est super de faire ça. Hein. Ouais, ouais.
Ouais.
Ok. Raphaël, est-ce que tu es toujours avec nous?
Oui.
Est-ce que tu te rappelles de ta deuxième question?
Oui.
Ah, super.
Est-ce que c'est si difficile de le comprendre, votre fils, quand il est autiste Asperger?
Alors, difficile de comprendre, oui, ça peut. Mais je connais bien mon fils, hein, il est plutôt facile à décoder. En fait, il parle vrai, il se comporte vrai, enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit arriver bien à l'avance hein, chez Hugo. C'est quelqu'un d'authentique, hein, donc c'est assez facile de le décoder. Mais parfois, ça m'arrive d'oublier ses difficultés ou de pas bien les comprendre. Et il est assez fort pour faire le caméléon, donc ça m'arrive de passer à côté de certains de ses besoins.
Ah oui.
Et puis il y a aussi l'adolescence, hein, ça modifie beaucoup de choses, les comportements sont plus imprévisibles, plus instables.
C'est certain.
Du coup, là, c'est pas lié à son syndrome d'Asperger, mais c'est vrai que pour tous les parents, ça devient plus compliqué quand même de comprendre certaines réactions à cette période de la vie.
C'est sûr.
Et donc, non, ouais. Ça m'arrive quand même des fois de pas bien le comprendre.
Déjà qu'eux, ils ont du mal à se comprendre eux-mêmes, alors forcément, les parents derrière, c'est un peu compliqué, quoi.
Oui, ouais. C'est sûr.
C'est vrai que c'est une période très particulière parce qu'il y a tellement de changements, il y a tellement de choses qui se passent. Et en tout cas, c'est bien de savoir que Hugo, déjà socialement, il réussit voilà, à avoir des amis et à se sentir bien avec des personnes de confiance.
Ouais, bah ça c'est super. Hein. Moi, je trouve que le fait qu'il ait comme ça fait des groupes d'entraînement d'habileté sociale, il fait du théâtre aussi depuis 5 ans. Ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé au niveau relationnel. Hein. Ouais. C'est super, c'est un super atout.
Super, super. Merci beaucoup. Lucas, tu avais une question?
Oui, une question qui concerne le blog « Je suis un as ». Mais pouvez-vous nous dire dans quel but vous l'avez créé, ce blog?
Oui. Alors le blog, en fait j'ai trouvé notre parcours très difficile, c'était un peu comme une traversée du désert hein, pour nous.
Bah, oui.
Ça a été très chronophage, très long de trouver des outils, des professionnels pour aider notre enfant, du temps pour notre vie de famille, hein, du soutien moral, comprendre comment monter les dossiers, tout ça c'est vrai qu'on avait, rien et je me suis dit plus jamais
oui,
ça.
Oui, même des choses administratives au fait, basiques. Même.
Ouais, ouais. Tout okay. Était compliqué. Il y a quelques associations hein, qui aident pour ça, mais c'est vrai que faut les chercher, faut les trouver, c'était pas évident quoi.
Ouais.
Et je comprenais pas qu'on puisse subir ça en fait en tant que parent, de pas être aidé davantage alors qu'on venait de prendre déjà un coup de massue. Hein. C'est ouais, voilà, c'est quand clair, on a un diagnostic, au début on,
on est perdu. Enfin, voilà, c'est compliqué. Alors après, on peut se mettre dans le mode un peu combatif. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché de l'information, tout ça. Mais en tout cas, je voulais plus que les familles vivent cette épreuve toute seule. Voilà, c'est pour ça que j'ai monté ce blog pour elles, hein, pour qu'elles y trouvent des informations, des idées, des outils, une forme de soutien.
Ouais, c'est super. Et aujourd'hui, voilà. Donc il y a quand même une communauté qui se construit un peu autour de ce blog.
Y a du monde, hein. C'est vrai que là, moi aujourd'hui j'ai 15 000 abonnés, donc il y a quand même des gens qui, enfin, à la newsletter, donc il y a des gens qui me suivent, hein, qui sont intéressés pour, j'ai beaucoup de retours, hein. Souvent quand j'écris, il y a des gens qui me répondent derrière, hein, qui me remercient, je trouve ça vraiment, oui, il y a des gens qui sont là autour et c'est vraiment sympa en fait. Hein.
Ouais. On sent qu'au moins il y a d'autres personnes qui vivent ce genre de choses et en plus il y en a quand même un certain nombre, quoi. C'est pas des cas isolés, c'est ça qu'il faut rappeler surtout. Hein.
Oui, voilà. C'est sûr.
Très bien, ouais, merci. Paolo, tu as une question ?
Alors, j'ai trois questions, une qui était écrite et deux autres qui me sont survenues. Est-ce que votre fils arrive-t-il à se reconnaître entre eux, c'est-à-dire entre autistes, même s'il n'a pas encore...
J'entends pas du tout.
Ouais, essaye de parler bien devant le micro.
Est-ce que votre fils arrive-t-il à se reconnaître avec un autre autiste, même si cette personne ne lui a pas dit ?
Oui, c'est un peu compliqué comme question. Je sais pas si
non,
tu
non,
veux
mais
répondre.
C'est juste que j'entends. J'ai pas tout compris en fait dans
Est-ce que est-ce que votre fils arrive-t-il à se reconnaître entre eux ? C'est-à-dire, est-ce que votre fils arrive-t-il avec une autre personne à reconnaître que l'autre est autiste ?
Tu veux dire, est-ce que entre autistes Asperger, ils se reconnaissent ? Voilà. Je sais pas si tu peux répondre, Séverine.
C'est difficile de répondre à cette question parce que les autistes qu'il a rencontrés dans le cadre encadré, c'était par le biais des groupes d'habileté sociale, donc il savait déjà en fait que c'était des personnes autistes.
D'accord.
Et après, c'est vrai que dans sa vie de tous les jours, il n'est pas spécialement amené à rencontrer des personnes autistes, hein, donc du coup, il n'a pas pu déterminer tout seul, ce genre de choses.
D'accord.
Après, c'est vrai que c'est un enfant qui se retrouve assez facilement copain avec des enfants qui ont aussi des problématiques comme de la dyslexie, il se retrouve assez, ou un trouble de l'attention, ou voilà. C'est vrai que souvent, ses copains, ils ont eux aussi une particularité. Donc, je pense qu'effectivement, quand on se fait des amis, on va vers ceux qui, quelque part, nous ressemblent un petit peu, quoi. Ouais. Donc oui, je pense qu'il doit sentir, en fait, ce genre de choses. Hein.
D'accord, ouais.
Je ne sais pas si ça répond bien à la question, en fait.
Si, je pense.
Ça va.
Ouais.
Oui. Deuxième question, est-ce qu'il a des troubles auditifs, c'est-à-dire des petits bruits qui peuvent le déranger ?
J'ai toujours pas entendu, je suis désolée.
Est-ce qu'il a des petits bruits qui peuvent le déranger ? Par exemple, des bruits de stylo,
Hugo, oui, pendant longtemps, il a mis un casque anti-bruit en classe.
Ah oui, ok.
Et le bruit, oui, ça le gênait tout petit déjà. Hein. C'est vrai qu'il avait tendance à mettre beaucoup les mains sur les oreilles.
Et en classe, actuellement, ça peut le déranger ? Les bruits de stylo ?
Et en fait, ça s'est arrangé avec le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est moins embêté par ça.
Okay.
Avant c'était beaucoup la lumière et le bruit et maintenant moins. En fait c'était deux domaines dans lesquels il avait une sensibilité
assez poussée,
une hypersensibilité.
Ouais.
Mais dans le reste, les autres sens, il était plutôt en hyposensibilité. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment resté.
Ah oui.
Voilà. Donc du coup il est plutôt du genre à être pas gêné.
D'accord.
Mais voilà.
Ouais. Ok. Très bien, tu as une autre question, non Paolo ? Parce que du coup tu as des questions en plus, il y a plein de questions Paolo.
Oui. Alors quels sont les plus grands moments de réflexion par rapport à votre fils sur son Asperger ou autre ?
C'est-à-dire les plus grands moments
de... Peut-être parfois il y a eu des moments de réflexion concernant sa scolarité ou d'autres domaines de vie, moments de vie.
Est-ce que ça te parle Séverine ?
Alors, des moments de réflexion par rapport à mon fils, oui, on en a forcément eu, mais comme ça, c'est vrai que...
Vous pouvez peut-être pas en parler ou...
Non, c'est pas ça du tout. On a eu des moments difficiles, en fait, dans le parcours. Hein. C'est vrai que, par exemple, quand il était en primaire, Hugo, il a été en classe avec une enseignante qui mettait, en fait, des outils pour lui en place, mais c'était des outils qui lui convenaient pas. Et ça a été pas bien perçu, en fait, quand on est revenu vers l'école. Et on a dû changer d'école, mais c'était un choix compliqué parce qu'on savait que du coup il perdait tous ses copains qui avec qui il était depuis la petite section. Voilà, enfin, et puis des rebondissements comme ça, c'est vrai qu'il y en a eu plein, je les ai pas tous en tête là.
Mmh, bien sûr, ouais,
ça. Mais c'est vrai que ça a été des choix compliqués, ça a été des choix qu'on a fait pour le protéger parce qu'on pensait que c'était plus bénéfique pour lui les changements qu'on lui proposait.
D'accord.
Mais forcément, il y avait toujours des contreparties, donc voilà.
Ok. Super, merci beaucoup. Eh bien, on va continuer sur Félicien. Vas-y.
Ah. Oui, il me faut l'ordinateur, excusez-moi.
Tout va bien.
Alors, ma deuxième question, c'était, est-ce que votre fils envisage de faire un métier ou des études? Enfin, des études, j'imagine que oui, je pense. Si oui, dans quel domaine? Ou est-ce qu'il n'a pas encore d'idée? Je ne sais pas. Voilà.
Oui, oui. Alors Hugo, ça fait longtemps en fait, qu'il a une idée un peu fixe. Hein. Il compte rejoindre un bac STL, c'est sciences et technologies de laboratoire.
D'accord.
Et en fait, il aimerait bien travailler dans la police scientifique. Hein. Ça fait un moment qu'il en parle. C'est vrai qu'il poursuit toujours cette ambition. Donc là, il fait tout pour aller vers ça. Voilà.
Ah ouais, super.
Il a toutes ses chances hein, parce qu'il est très bon en sciences. Donc,
ouais. Et le théâtre alors dans tout ça?
Le théâtre, oui, ça lui plaît aussi, mais à un moment, il s'est dit, j'aimerais bien être comédien, mais non, la police scientifique, ça lui plaît plus, en tout cas pour un métier. Après, le théâtre, il veut continuer. Hein,
merci les experts. Non,
nous, on n'est pas du tout télé à la maison.
Ah ouais, d'accord, ça lui est venu comme ça, en fait.
Donc, non, c'est juste, il a commencé, et tout de suite, il a accroché, et voilà. Et du coup, c'est... Non, ça lui plaît, mais je pense que c'est vrai qu'il y a une vraie émulation dans les groupes quand ils sont ensemble. Enfin, c'est un peu livrer ses émotions aussi, faire du théâtre. Hein.
Ça, c'est certain, oui. Ouais,
faut
ouais.
Jouer avec ses émotions, voilà. Et je pense qu'Hugo, ça lui plaît, c'est aussi découvrir les émotions des autres.
Ouais.
Donc ça lui parle, ça lui plaît.
C'est super, en tout cas, qu'il ait trouvé ça, ouais. Très bien. Jessica, tu es avec nous ou pas?
Oui. Incroyable. Bah en fait, ça a raccroché tout ça.
Ouais, tu sais, c'est un peu...
C'est un peu compliqué.
C'est un peu sportif aujourd'hui, Jessica, mais t'en fais pas. On finit par y arriver. En tout cas, on est content d'entendre ta voix.
Oui, parce que, j'ai pas pu trop prendre le train parce que j'ai des soucis de santé.
Ah.
Et du coup, au niveau des horaires et tout du train, j'allais être en retard parce qu'en plus, il y a encore des travaux sur la hache.
Ouais.
Donc, c'était un peu speed aujourd'hui, donc...
Ouais.
Voilà.
T'en fais pas, en tout cas, on est content que tu sois là avec nous. Est-ce que tu veux poser une question à Séverine?
Oui. Alors, quelle est la pire réflexion que vous ayez reçue de la part d'une personne à propos de votre enfant?
Alors, la pire réflexion, je crois que la pire réflexion pour les familles, c'est l'ignorance et la méchanceté des gens.
Ah oui.
Des fois, c'est sa propre famille. Moi, ça m'est arrivé, personnellement, c'est vrai, une histoire qui m'est arrivée, qui m'a beaucoup marquée. Ça s'est passé, en fait, dans la boulangerie. Hugo, il avait 4 ans, il était petit. Hein. Et il avait, à l'époque, un type de langage, une espèce d'écolalie. Il répondait tout le temps, « Non, mais tais-toi, toi. » Voilà, même pour des choses banales, parfois, c'était sans méchanceté. Hein.
Ouais.
Souvent, c'était parce qu'il était contrarié, c'est vrai.
Okay.
Et ce jour-là, en fait, il n'avait plus son goûter à la boulangerie. Je lui ai proposé autre chose, mais c'est vrai qu'il avait un choix limité parce qu'il suivait un régime, il avait une intolérance alimentaire. Et on testait une éviction pour savoir s'il allait aller mieux sans cet aliment-là.
Ok.
Et donc, Hugo, quand il a appris ça, il m'a fait « Non mais tais-toi, toi, non mais tais-toi, toi ». Et il était en boucle là-dessus. Et il y a une dame derrière dans la file d'attente qui a fait « Ça serait mon gosse, il aurait déjà pris une talonge depuis longtemps ». Moi, je suis restée sans voix parce que je me suis dit il y avait beaucoup de monde. Et je me suis dit « Comment on peut parler comme ça? Comment on peut se mêler de la vie des gens ?» Enfin, voilà, ça m'a vraiment choquée. Et j'ai pas su quoi répondre tout de suite. Puis je l'ai regardée, puis j'ai sorti le seul truc qui venait à l'esprit. C'est que je lui ai dit « Écoutez, mon fils, il est autiste. » Et elle s'est pas arrêtée pour autant. Elle me regarde, elle fait, j'en ai déjà vu des autistes, ils sont pas comme ça.
Ah bah super.
Et là, eux, c'est les pires.
C'était vraiment un truc. Donc j'ai payé, je suis partie avec mon fils. Et le pire, vraiment, ce que je pense qui m'a vraiment marqué, c'est quand on arrivait à la maison, il y a plein de petits graviers dans la cour devant le jardin. Et il s'est assis là, il a attrapé les graviers, il les a jetés partout. Il a dit, je veux être comme ma sœur. Donc, je trouve ça horrible parce qu'il avait déjà 4 ans et en fait, il s'est très bien rendu compte de ce qui se passait.
Ouais.
Il a très bien compris qu'on remettait en cause son autisme et sa façon d'être en tout cas et voilà, et donc il a été impacté, moi j'ai été impactée par ça mais lui aussi, et ça m'a vraiment fait mal, ça m'a, enfin c'est
en plus c'était le tout début de l'aventure pour toi aussi
c'est ça, ouais, c'était vraiment le début et c'était très dur d'entendre ce genre de choses,
surtout que ça avait dû te demander beaucoup de courage au fait de t'affirmer à ce moment-là et au fait de pas avoir de répondant derrière. Oui, ça a dû être assez difficile à vivre.
Et surtout que la personne, elle campe sur sa position comme ça, ouais, devant tout le monde. C'était vraiment, on se dit, c'est fou. C'est fou quand même qu'on en arrive là, que les gens ne soient pas capables d'entendre, en fait.
Ouais, c'est sûr. Heureusement, ça commence à s'ouvrir un peu, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens, de toute façon, pour...
Bah, il y aura toujours, en fait. Après, il faut apprendre à s'en prémunir. Hein. C'est vrai que moi, ça prend un petit peu de temps. Mais au bout de certaines années, on se dit, bon, c'est pas grave, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent et... Ça ne vous impacte plus de la même manière. Hein.
C'est un sacré travail.
Voilà, mais je pense que pour mon fils, par contre, c'est pas pareil. Lui, c'est vrai que toujours, hein, quand on lui dit des choses, ça reste encore difficile et c'est normal.
Ouais. Bah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés et c'est vrai que ça paraît étrange d'être obligé de s'annoncer quelque part à un endroit où on va pour dire bah moi je pense de telle manière, ou enfin c'est un peu étrange quand on y réfléchit, au fait de se dire que pour être accepté socialement faut qu'on dise bon bah voilà moi je suis comme ça donc
oui c'est vrai qu'on devrait pas avoir à dire, mais bon après
à terme, je pense que aussi c'est quelque chose qui, on en a parlé un peu hier sur une émission aussi, que c'est quelque chose qui permet de pas avoir à se cacher aussi. On se dit bon bah voilà, au moins j'ai posé ça, les gens ils en font ce qu'ils veulent, mais au moins il n'y a pas besoin de jouer un rôle.
En fait, c'est pour ça, justement sur le blog j'avais mis des petites cartes à donner aux gens pour plus avoir à dire. Mon fils est autiste, par exemple, devant son propre enfant déjà, et puis devant tout le monde, parce qu'en fait c'est notre vie personnelle. Et c'était des petites cartes en fait à distribuer aux gens pour que bah du coup ils aillent se renseigner tout seuls et qu'ils s'arrêtent de faire
ça,
des réflexions.
Ah oui. D'accord. Ouais.
Mais c'était une idée que j'avais trouvée ailleurs et je m'étais dit c'est super ça, parce que ça désamorce le conflit tout de suite et puis ça évite en fait.
Mais ça marche bien, hein, les choses comme ça, les visuels. Moi je me souviens d'un visuel que j'avais beaucoup aimé sur le site de Igor Thirier, je sais pas si tu connais.
Non.
Non, mais au fait, il a fait un visuel. Bon, il a fait pas mal de petits visuels comme ça. Il a fait une sorte de schéma explicatif de ce que l'autisme n'est pas et de ce que l'autisme est. Et c'est du coup, c'est des pictos au fait qui sont représentés. Donc, c'est par exemple, l'autisme n'est pas une maladie, n'est pas un refus d'exister, n'est pas un truc de geek, n'est pas la fin du monde, etc. Il y a beaucoup de choses et c'est assez intéressant. Et je pense que justement, les gens sont plus. À même de s'ouvrir à ça quand il y a un support visuel entre guillemets pour les aider, parce que c'est pas évident quand même quand on connaît pas du tout, hein.
Non c'est sûr ouais. Mais bon, il y a un gros travail de sensibilisation à faire encore, hein, ça c'est
ouais,
sûr.
Mais ouais, c'est en marche quand même, il y a des
oui, qui est en marche, ouais. Qui est en marche, c'est très bien.
Ouais. Merci. Paolo, tu veux poser la prochaine question?
Oui, est-ce que vous avez des regrets sur son parcours?
Est-ce que j'ai des regrets sur mon parcours?
Sur son parcours.
Non, j'ai pas vraiment de regrets. En fait, j'aurais plutôt des reproches. Justement, hein, c'est tout ce dont on parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Hein. Moi, je déplore, c'est le manque d'aide et d'informations. Comme on disait, ça s'améliore, hein, mais on est encore loin de répondre aux besoins.
Ouais.
Le fait que la plupart du temps, un des deux parents arrête de travailler pour aider son enfant, donc on perd sa carrière avec tout ce que ça implique, hein, et c'est pas compensé, c'est pas reconnu. Il n'y a pas de pôle d'aide et d'accompagnement systématiquement proposé aux parents, ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, justement.
Ouais,
je trouve ça dur,
ouais,
pour les parents de se retrouver tout seuls comme ça. Et puis surtout, il manque trop de professionnels formés à l'autisme pour aider nos enfants. La plupart des organismes et des associations, elles sont constituées par des parents. Moi, je trouve qu'on marche sur la tête. Hein. C'est les parents qui ont besoin d'être aidés. Et c'est finalement, c'est eux qui se retrouvent tout seuls à aider leurs enfants. Même si c'est de moins en moins vrai, ça reste quand même hyper fréquent. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation massive, hein, pour que l'autisme soit mieux compris. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Et puis surtout que c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais. On dit, comme on disait tout à l'heure, c'est au moins une personne sur 100, mais je pense que c'est un petit peu plus.
C'est probablement
maintenant.
Beaucoup plus. Ça, c'est des vieux chiffres, mais il n'y a pas eu de nouvelles études depuis des années. Donc,
Ouais. Et donc, on s'aperçoit que c'est quand même énorme et que la société, elle n'a pas d'autre choix que de modifier ses standards. Enfin, voilà. Mais je regrette un peu tout. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est des regrets, mais je suis un peu consternée, en fait, par le manque de moyens mis à disposition.
Ouais.
Et ça avance, mais ça avance vraiment pas vite, quoi.
Bah oui, c'est clair. Heureusement, il y a des ressources maintenant qui existent et en tout cas, il y a des chemins qui peuvent se faire pour trouver des gens qui ont de l'information, en fait. Mais c'est vrai que il y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'initiatives à l'échelle, je sais pas, étatique ou même à l'échelle
internationale. C'est ça. En fait, les initiatives, souvent, elles sont à l'échelle de soit de personnes autistes, soit de parents, soit d'associations, enfin, beaucoup.
Et, ouais.
Il faudrait que ça change, il faudrait qu'on ait un vrai soutien de l'État.
Bah oui.
Davantage, en tout cas.
Ouais, bah c'est certain, en fait, faudrait quelque chose, faudrait que tout le monde se sente concerné, au fait, parce que bah il y a beaucoup de gens qui sont diagnostiqués ou qui ne sont pas diagnostiqués mais qui ont ce syndrome là et qui ont cette manière de percevoir les choses. Et c'est vrai que normalement, étant donné qu'on est en 2022, on devrait quand même arriver à un stade d'évolution où l'inconnu et l'autre devraient être quelqu'un vers qui on va plutôt que d'en avoir peur et de rester sur des vieux schémas. Et je pense qu'en plus, en France, on a peut-être tendance aussi à pas mal camper sur nos positions et avoir ce côté d'avoir du mal au fait d'aller vers la nouveauté et de changer, au fait, hein, tout simplement.
Ouais, mais en fait, on n'est pas du tout, comment dire... On n'a pas du tout été formé pour ça, c'est-à-dire que c'est dès l'enfance qu'il faudrait apprendre aux enfants à vivre avec la différence, puis on est dans un système qui est compétitif, plutôt que d'être dans un système collaboratif, on va dire.
Et en plus, donc, on dit à vivre avec la différence, mais moi, même quand j'entends ça, je me dis, mais c'est même pas ça, c'est juste prendre conscience à quel point la différence, c'est génial, au fait. C'est pas le fait de devoir s'adapter et tout ça, c'est de comprendre qu'au fait, c'est un autre point de vue, c'est plein de choses, au fait, à partager, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est génial, ça, c'est sûr. Mais après, il y a quand même des aménagements à mettre en place et il faut en prendre conscience.
Enfin, tu veux dire quelque chose, Félicien ? Je te vois qui fait des gestes dans tous les sens.
Non, c'est semi-génial, on va dire. Oui, c'est génial, mais c'est un bien grand mot. On va dire que oui, oui, c'est génial. Allez, je dis ça.
Moi, quand je vois tes créations, quand je vois tout ce que tu fais en impro, etc., oui, je trouve ça génial, tu vois. Mais bon, après, ouais. C'est pas toujours simple à vivre, je dis pas le contraire, mais bon. Juste pour dire que je pense que si, de toute façon, là, on est quand même dans une époque, je pense, où on a beaucoup de mal à communiquer, même entre neurotypiques. Donc, en plus, les gens qui sont un peu différents de nous, bah, c'est vrai que ça devient très très complexe, quoi.
Mais voilà, c'est vraiment génial, il ne faut pas que ça efface la difficulté, en fait, c'est surtout ça.
Bien sûr.
Il n'y a pas que le côté génial. Oui. C'est vrai que souvent, je pense que c'est pour ça que Félicien, il fait des signes. Ouais. On revient sur le côté génial, mais il n'y a pas que ça. Enfin, ouais. C'est plus complexe que ça et on ne peut pas réduire une personne à juste ça. Enfin,
non, ce que je veux dire, c'est que dans une société qui serait adaptée, en fait. Mais... Parce que c'est ça le problème, c'est que la société, elle n'est pas adaptée. Mais dans une société qui serait adaptée, on se dirait juste, bah, c'est génial, au fait. Bah oui, toi, tu arrives à percevoir les sons de manière super forte, mais si la société est adaptée, c'est pas un problème, au fait. C'est juste une qualité.
C'est ça. Mais ça, je pense que c'est la phase finale, en fait, pour moi.
Ouais.
De dire, waouh, c'est génial, c'est parce que du coup, on a réussi à mettre en place tout le reste, en fait.
Ouais, super. Mm. Bah oui.
On et que du coup, chacun pourra exploiter son potentiel. Mais bah, aujourd'hui, si on ne met pas les adaptations en place, le potentiel, on ne peut pas l'exploiter, quoi.
Oui, c'est clair.
Donc, voilà.
Lucas, tu avais une question aussi.
Mais elle avait peut-être déjà répondu à la question, mais... Est-ce que vous proposez des aides pour permettre aux parents de comprendre l'autisme de leurs enfants et de les élever ?
Alors oui, sur le site, on trouve en fait des outils illustrés à télécharger. On trouve des idées, des conseils à travers des articles. Et je proposerai bientôt des formations, mais aussi des objets de sensibilisation. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place puisque j'ai décidé d'en faire mon activité. Mais oui, oui, il y a des aides pour les parents, mais pas que, hein, aussi pour les enseignants, pour les AESH, voilà, pour toutes les personnes qui sont autour de nos enfants autistes.
D'accord. Et ce serait quoi des objets de sensibilisation ?
Bah, je voulais faire des t-shirts, plein d'objets avec autour de l'autisme en fait.
Ok, d'accord. Bah oui, c'est une belle piste à explorer. Merci beaucoup. Jessica, tu as une question ?
Oui, alors, est-ce que vous songez à éditer une BD sur l'autisme ? Parce que beaucoup de gens le font, soit des parents qui ont un enfant autiste, soit vraiment les autistes eux-mêmes ont déjà fait pas mal de bandes dessinées, et du coup...
Alors non, c'est pas du tout un projet que j'ai pour le moment. Le blog, ça prend beaucoup de temps.
Ouais, c'est sûr.
En revanche, les outils illustrés sont prévus hein, pour le blog. Hein, des filles, des pictogrammes, des scénarios sociaux, enfin des outils pour les enfants, les jeunes adultes. Mais la BD, non, j'aimerais beaucoup. Hein, j'ai toujours voulu faire une BD, même en dehors du cadre de l'autisme. Hein, mais je sincèrement, j'ai pas le temps et c'est pas du tout ma priorité aujourd'hui. Mais ouais, ce serait un super beau projet.
Et après, peut-être sans aller jusqu'à BD, parce que toi, tu as fait des illustrations pour la presse, peut-être juste des petits quand tu parles de picto, c'est une chose, mais ouais, peut-être plus des petits dessins en fait qui mettent en scène des situations. Souvent c'est assez parlant en fait.
Ouais, c'est un projet. Après j'en ai beaucoup, alors je vais me concentrer d'abord sur ce qui aide le plus, ouais. Mais pourquoi pas.
Un peu dans le style de Pénélope Bagieux là, et tout ça quoi, ce genre de choses. On imagine que ça pourrait bien marcher.
Bah je sais pas si vous avez lu dans les derniers articles, justement, j'ai fait un sketch note.
Ouais.
Donc j'ai commencé à me remettre justement sur des petites illustrations comme ça. C'était pour illustrer en fait c'était un sketch note qui s'appelait L'autisme n'est pas un gros mot. Et c'était justement pour illustrer un petit peu les situations de harcèlement et justement pour expliquer un petit peu aux enfants. Ce qu'est l'autisme et sensibiliser en fait à la différence. Oui, c'est prévu. Alors, j'ai commencé justement un petit peu par-ci, par-là à faire des petites illustrations.
Ouais, l'autisme n'est pas un gros mot. Bah, c'est vrai que c'est un mot qu'on a du mal à manier en tout cas. On ne sait jamais trop comment l'utiliser. C'est sûr. Ouais. Ouais. Et c'est très bien d'avoir des supports illustrés justement.
Ouais, c'est assez efficace, c'est vrai. Je le reconnais. Les supports illustrés, c'est efficace.
Ok. Super. Eh ben, merci beaucoup, Séverine. Je propose donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, de passer à une rubrique qui est assez sympathique. C'est la rubrique des coups de cœur et des coups de griffe du moment. Alors, je ne sais pas qui a des coups de cœur ou des coups de griffe pour le moment. Est-ce que toi, tu en as un déjà de coups de cœur? C'est un peu ton coup de cœur du moment ou ton coup de griffe du moment, donc quelque chose que tu as envie de dire, qui te plaît pas, tu vois, c'est un peu ça l'idée de cette...
Non, de coup de cœur ou de coup de griffe du moment, non, pas spécialement, non, pas j'avoue, trop. Là j'ai un peu la tête dans le guidon en ce moment.
Ouais, pas le temps d'avoir des coups de cœur.
Pas trop le temps, ça m'empêche pas de faire des choses, hein, mais ça, bon, de là que ce soit un coup de cœur, j'ai fait des concerts, je fais des choses, mais non, j'ai pas de coup de cœur du moment. Hein,
ok, très bien.
Je suis désolée.
Est-ce que quelqu'un a un coup de cœur ici ? Paolo ? Non ?
Non.
Non, Paolo n'a pas de coup de cœur. Félicien, non plus ? C'est juste coup de cœur, c'est vraiment est-ce que t'as quelque chose qui te plaît particulièrement en ce moment que tu viens de découvrir et que t'aimerais partager avec les gens, tu vois, par exemple.
C'est coup de cœur.
Et oui.
Il faut que je réfléchisse. J'ai
un
pas
coup de cœur. Ah. Toi non plus, Lucas. Si. Ah, Lucas. Bah vas-y, Lucas.
Je l'ai découvert mercredi dernier. Je voulais pas le dire dans ma chronique parce que je n'avais que peu d'infos.
Ah.
Mais mercredi dernier, je suis allé voir un concert de quelqu'un qui est assez jeune, mais qui sait faire beaucoup de choses. Il chante, il danse en même temps,
okay.
Et il joue des instruments. Son surnom de scène, c'est Weirdo.
Weirdo, ok. Ça veut dire personne bizarre, Weirdo. Ouais.
Écrit à la langue anglaise, oui, ça peut signifier comme ça, mais le surnom est écrit autrement.
Ah, il est écrit comment ?
Weirdow. Ah. Avant, je ne connaissais pas ces chansons, plus j'ai commencé à les écouter. Et ensuite, je suis allé voir le concert et c'est beaucoup mieux en concert que écouter les chansons quotidiennement.
D'accord. Okay.
Parce que là, nous découvrons de tout à la fois.
Ah oui. Ok, super. Très bien. Et donc là, il joue plusieurs instruments sur scène en même temps.
C'était le piano quand j'ai vu sur scène.
Ah, piano. Ok. D'accord. Oui, bah, très bien.
Il y a un compte YouTube. Il y a un compte YouTube où on peut écouter les chansons.
Weirdo. Ok, on ira voir. Merci beaucoup, Lucas. Tu disais quelque chose, Séverine, pardon ?
Oui, j'avais une petite question, mais le tour de table n'est pas fini. Mais en fait, je voulais savoir si parmi vous, il y avait quelqu'un qui avait lu la BD Couleur d'asperge.
Ah, je crois qu'on la connaît même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la connaît ici ?
Non, désolé. Non.
Couleur d'asperge, le jour où j'ai découvert que j'étais Asperger. Parce que moi, je ne l'ai pas lu, et en fait, à un moment, je me dis, il faut que je la lise, je ne l'ai pas fait. Et donc, je voulais savoir justement si quelqu'un avait un avis sur cette BD.
Ah, bah.
Moi, je suis une grande fan de BD hein, quand même. Hein, mais,
c'est vrai ? Ah, ok.
Alors, moi, j'ai lu La différence invisible.
Voilà.
Ouais, moi aussi. Ouais.
De Julie Dachez, qu'on a reçue à un moment, ouais. Enfin non, on a reçu Mademoiselle Caroline.
Oui. Ouais. C'est ça, c'est Mademoiselle Caroline qu'on a reçue.
Ouais, ouais, ouais. Qu'on salue d'ailleurs, si ça se trouve.
Oui.
Bonjour Mademoiselle Caroline.
Bonjour Mademoiselle Caroline. Et oui.
Bonjour.
Oui, oui, bonjour. Mais non, bah on connaît pas. Écoute cette BD, on ira se renseigner. Et Jessica, bah, tu avais un coup de cœur, coup de griffe du moment.
Ouais, bah là du coup normalement la semaine prochaine, il y a sur Switch, il y a le jeu vidéo Token Rumble Warriors qui va sortir.
OK.
Et du coup, je suis contente parce que en fait, c'est une licence que tu peux pas avoir en France parce que c'est des applis que tu peux avoir que sur le Google Store japonais.
Ah, d'accord. OK.
Donc là, ils vont sortir en France. Et par contre, c'est aussi un peu mon coup de griffe parce qu'en fait, le jeu va sortir en France, en japonais, en anglais. En fait, les sous-titres seront en anglais.
Ah oui.
Et ça, à chaque fois, sur Switch, j'ai l'impression qu'il y a des licences qui sont assez grosses quand même. Et c'est toujours en anglais. Et là, en plus, ça sera sans cartouche. Donc, ça sera que du téléchargement.
Ah oui, ok.
Bah, du coup, sur la Switch, si t'as pas internet, bah, tu peux pas jouer au jeu en fait.
C'est quoi comme genre
parce
de jeu
si t'as la... Hein ?
C'est quoi comme genre de jeu ?
Bah, en fait, c'est un Mushu Game. En fait, c'est un jeu où tu vas avoir des objectifs à faire et il faut que tu les atteignes pour passer au chapitre suivant.
D'accord.
Donc, ça va être souvent battre des boss, éviter que certains ennemis s'enfuient de la carte, etc., etc., etc.
Ouais. D'accord. Ok.
Et du coup, bah, ils avaient déjà fait le même genre de jeu pour Fire Emblem Warriors, du coup. Et ils avaient sorti pour The Legend of Zelda aussi, l'ère du fléau. Et du coup, c'est un peu la même boîte qui fait ce jeu-là.
D'accord. Ok.
Donc, j'ai joué à la démo.
Ouais.
Et elle est très bien.
Super. Et est-ce que Hugo, il joue beaucoup à des jeux vidéo aussi ?
Hugo, il joue un peu à des jeux vidéo, ouais. Après, il préfère regarder des vidéos sur le corps humain. Il joue un peu aux jeux vidéo, ouais. C'est pas une passion, c'est-à-dire qu'il y passera pas des heures, mais ouais, il aime bien. Il aime bien les jeux de Switch. Je sais qu'il a fait des jeux comme Zelda, Luigi. Je sais plus, mais voilà.
Ouais. Ok, super. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, vu qu'il nous reste un peu de temps, là, est-ce que. Ah, Félicien, ouais,
j'avais un coup de cœur rapidement.
Ah, le coup de cœur de Félicien, on ne peut pas le rater, celui-là.
J'ai écouté, je suis allé voir un concert mercredi dernier à la Philharmonie et je vous invite à vous inscrire, à écouter, à voir le bâtiment ou à même.
Ouais, c'est beau, la Philharmonie, ouais. Tu es allé voir quoi comme
et
concert
à voir, je vous invite à voir tous les concerts qui existent, si vous pouvez les découvrir parce que c'était vachement riche.
Un coup de cœur pour tous les concerts de la Philharmonie.
C'était un orchestre. Je crois que c'était dirigé par un chef d'orchestre évidemment qui était assez connu, mais je sais plus son nom. Et c'était il y avait du Ravel, du Gershwin et du Bartok.
Voilà,
avec une petite entracte avant le Bartok.
Ah, okay. Il y a des dates ?
Non, ce concert-là, il est passé, mais vous pouvez consulter sur Internet ou acheter le programme où il y a tous les concerts. Mais je crois que là, c'est la fin de l'année, mais à partir de septembre, ça va recommencer.
D'accord, super. Donc, ouais. C'est vrai que la Philharmonie...
Je ne l'ai pas eu cette année, l'annuaire, enfin le lexique des concerts, là où il y a tous les...
Ouais, ouais.
Le doc, mais voilà.
Ok, super. Ça marche, merci. Donc, question aussi, là, on va partir sur une autre rubrique, même si c'est un peu lié, mais est-ce que Séverine, tu as des choses à partager sur le syndrome d'Asperger en 2022, au fait, comment c'est aujourd'hui? Est-ce que tu as peut-être des éléments ressources ou des choses qui pourraient aider les personnes à mieux vivre, justement, le syndrome d'Asperger?
Ou
ta vision, si tu veux, de commencer.
Juste en 2022, moi, c'est plutôt, j'aurais plutôt quelque chose à revendiquer.
Ah.
mais non, de.
C'est-à-dire
plutôt le travail à faire dans les écoles. Enfin,
on parle d'inclusion,
mais en fait, l'inclusion, elle doit être accompagnée de vrais moyens humains et financiers, de vraies formations pour les enseignants. Et là.
Oui, comme on disait, plus quelque chose à grande échelle et pas localisé comme on fait jusqu'ici. C'est ça ce que tu veux dire?
Pardon?
Tu veux dire plus quelque chose à grande échelle et pas localisé ou pas qui concerne uniquement les personnes qui sont directement concernées. C'est ça ce que tu veux dire?
Quand
tu parles d'information.
Pas.
C'est ce que tu as dit, non? Tu parlais de faire un travail d'information à plus grande échelle?
Oui, oui, mais dans les écoles, en fait.
Ouais, directement dans
les
écoles.
C'est juste, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais dans les écoles, je trouve que pas du tout. Enfin, les professeurs sont pas formés, ou alors ils ont 2 heures de formation sur l'autisme à peine. Enfin,
ouais, ça, c'est sûr.
Il n'y a pas de moyens mis en place. Et en fait, l'État parle d'inclusion, mais en fait, on est loin de mettre en place ce qu'il faut pour aider nos enfants. Et je trouve qu'en 2022, c'est quand même catastrophique de pas prendre en charge comme ça l'éducation de nos enfants avec de vrais moyens. Mais non, je suis désolée, j'ai pas d'outils là comme ça qui viennent en tête.
Ok.
Et puis, il y a des profs, ils s'en foutent, Guillaume, aussi. Hein.
Ouais. Oui, oui.
Moi, j'avais lu sur Twitter, c'était un témoignage d'une mère où sa fille, elle était autiste. Et du coup, elle avait les diagnostics, tous les trucs, tu sais, prouvés, de la MDPH, tout ça.
Ouais.
Et du coup, la petite, elle se plaint à sa mère que la prof fait aucun effort. Et du coup, la prof, elle a répondu à la petite, c'est moi la maîtresse ici, c'est pas ta mère.
Ouais, d'accord, ok.
Donc la mère, elle allait plusieurs fois à l'école se plaindre que c'est quand même des décisions de la MDPH, tu vois, c'est pas...
Bien sûr, ouais.
N'importe quoi, la maîtresse, elle s'en foutait apparemment.
Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des gens comme
L'inclusion, c'est bien beau parce que t'entends certains profs, oui, moi j'accepte les élèves tels qu'ils sont, mais quand tu vois les collègues à côté, c'est tout pourri en fait. Et ça n'a pas l'air de trop les choquer apparemment.
Après, c'est comme partout, hein. Dans les écoles, il y a des enseignants impliqués, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais enfin, je veux dire, ceux même qui sont impliqués, ils n'ont pas assez d'outils qui sont mis en place pour eux.
Oui, c'est sûr.
Clairement.
C'est sûr, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que...
Il y en a bien des profs, hein, sincèrement. Hein. Moi, j'en ai vu des très, très bien.
Ouais, je pense que...
Il y en a qui m'écrivent qui sont très bien.
Ouais.
Mais voilà, après, ils sont dépassés, je pense. Vraiment. Ils ont vraiment besoin d'aide.
Ouais.
C'est un appel au secours que j'envoie, moi, plutôt.
C'est vrai. Non, mais il faudrait qu'il y ait une sorte de loi ou quelque chose qui les force, au fait, à mettre ça aussi dans le programme, au fait, que ça devienne...
Les AESH, hein, je les oublie pas, hein, c'est pareil, hein, les pauvres.
Les AESH, qu'est-ce que c'est?
Ce qu'on appelait anciennement les AVS, hein, les auxiliaires de vie scolaire,
qui
accompagnent nos enfants en classe. Hein. Ils sont pas assez formés et puis on les balade maintenant, on mutualise donc d'une école à une autre ou d'un élève à l'autre.
C'est ça.
Ils n'ont pas le temps de se concentrer sur l'enfant dont elles s'occupent. Enfin, elles sont super mal payées alors qu'elles font un travail difficile. Enfin,
ouais, c'est vrai. Hein.
Voilà. C'est vraiment le pôle école. Il y a un énorme travail à faire.
Ouais.
Elles sont même pas payées le SMIC, hein, je crois.
Ah oui.
Ouais, c'est très très bas. Enfin, si c'est moins que le SMIC parce qu'elles font.
toutes leurs heures sont pas comptables. Enfin, la comptabilité des heures, elle est particulière. Hein, je... Ouais, c'est pas. Ouais. Puis, de toute façon,
parce que j'avais vu un reportage sur TF1, et du coup, il y en avait une qui témoignait, du coup, et qui passait à la télé, et je crois, elle gagnait 800 euros par mois.
Ouais, c'est ça. Ah, c'est ouais. Ça, à peu près, ouais. C'est à peu près ce qu'elle gagne, ouais.
Ah, ouais. Et est-ce que les personnes qui sont ici présentes, est-ce que vous avez un partage à faire par rapport à l'évolution justement de à la fois de la prise en charge ou de comment vous le vivez? Est-ce que vous trouvez qu'en 2022 il y a des choses qui ont changé ou pas du tout? Il y a un grand silence devant moi. Non, rien. Félicien, non. Peut-être.
Moi, peut-être que je m'en rends plus compte parce que. Oui, vu que je suis dans un monde de musiciens, je peux peut-être. J'ai l'impression que c'est assez valorisant pour moi, même si ça reste encore différent et que je ne sais pas toujours où me placer. En même temps, je sais des fois où me placer. Ça dépend de mon moment, de mon heure. Voilà.
Et puis toi, tu as pu trouver en plus un endroit où vivre presque en indépendance. En tout cas, tu es en train d'aller
voilà,
vers ça.
Je commence par une coloc adaptée pour après peut-être aller en coloc ordinaire. Je crois que c'est possible. Voilà.
Donc ça, je ne sais pas s'il en existe plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais
ça, je pense que c'est encore assez inconnu aussi. Hein. Ouais. Il faut beaucoup, beaucoup de temps avant que les gens connaissent vraiment, s'appliquent vraiment là-dedans. C'est vraiment encore en tout début, à mon avis.
Toi, tu as dû attendre combien de temps avant d'avoir accès à l'appartement dans lequel tu es?
Je pense que c'était... J'y suis allé quand j'étais tout petit et là, je me suis dit, c'est pas que je me suis moqué, mais je me suis dit, c'est pas pour moi parce que c'est des gens qui sont très handicapés.
D'accord.
Et puis, au vu de mon évolution, mon cerveau a changé, s'est transformé, se dit... On a saisi tout de suite l'occasion parce que chez mes parents, c'était 32 mètres carrés, qu'il fallait les quitter. Il y a quand même 2-3 ans... il y a un an d'attente ou 2 ans, le temps de demander, et voilà.
Oui, toi, ça a presque duré 3 ans, non? C'est ça, au total?
Non, parce qu'avant, on ne savait pas dans quel SAVS on allait. Okay. On allait aller au pôle Bélan, il fallait attendre.
Oui, c'est vrai,
Parce que Dido, ce n'était pas tout de suite.
Ouais.
Il y a le directeur qui m'a dit, c'était ceux qui peuvent me prendre, c'était Léopold Bélan, mais on a attendu Dido un an de plus, et je suis rentré à Dido, et ça y est, c'est venu, et voilà.
Ah oui.
Je fais mon expérience en colocation.
Ouais, bah oui, super.
Ça s'appelle des appartements collectifs partagés, appartements partagés ou inclusifs. Voilà.
D'accord. Ouais.
Appartements partagés, ça s'appelle.
Ouais.
C'est où ça?
Pas tellement en colocation, mais.
C'est où c'est, c'est.
C'est. Il y en a 4 ou 5, je crois. Il y a Brousset, Roussel. Après, je ne sais plus les autres.
D'accord. Tu les avais trouvés comment? Tu te rappelles comment?
J'ai visité Roussel et Brousset.
Ouais.
Et. Roussel, c'était pas mal, mais je suis allé à Brousset et c'est quand même super. 88 mètres carrés, un grand salon.
Ouais, de la verdure.
De la verdure, le RER qui passe en face.
Mais parce que Félicien aime beaucoup les trains, c'est pour ça.
Ouais, tu nous redonnes l'adresse et le code.
Ouais, le code?
Non, le code, aller, je n'ai pas le droit. Non, l'adresse peut-être, mais pas le code.
Ouais. Ok, oui, mais donc, voilà, il y a des choses qui existent pour ça. Est-ce que d'ailleurs, Séverine, Hugo, par rapport à son indépendance, tu le vois comment, en fait, dans les années qui vont suivre?
Moi, je suis plutôt optimiste, hein, de façon générale. Je le vois, je pense qu'il va se débrouiller plutôt bien, je pense. Enfin, moi, je le vois autonome, hein, après, peut-être super. Que je mets des œillères, j'en sais rien.
Non, mais il a l'air d'être bien parti, d'être bien entouré.
Ouais, et... il a été pris en charge, c'est vrai, super voilà, tôt, et il a eu une progression phénoménale. Je veux dire, tous les professionnels qui le suivent, même là, la directrice du collège, je l'ai vue la semaine dernière, elle me disait qu'elle était hyper fière de son parcours. Enfin, c'est un gamin qui évolue vraiment super bien. Enfin, moi, je suis hyper fière de mon fils. Après, je suis pas objective, hein, c'est mon enfant. Mais
tant mieux.
Je suis plutôt confiante, moi, pour l'avenir. Je pense qu'il va avoir des difficultés à trouver du travail. Hein. Ça, je me leurre pas parce que c'est difficile pour tous les jeunes d'aujourd'hui. Et je pense que quand on a un syndrome d'Asperger, ça complique un peu les choses.
Oui, c'est sûr.
Après, je me dis, voilà, bien accompagné, on va essayer de mettre le pied dans la porte à chaque fois qu'on pourra. Et puis. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Il va s'en sortir. Je suis plutôt confiante.
Super. Merci. Voilà. Toujours ce grand élan de positivité, ça fait plaisir. Est-ce que J'aime bien poser cette question, moi, parce que souvent, on a des réponses intéressantes. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait ?
C'est pour moi, la question ?
Oui, c'est pour toi. C'est ouvert, c'est mais après, vu que là, on est en train de parler avec toi, je me suis dit...
Moi, si je vais changer une chose dans le monde, si je pouvais, je pense que ce serait le respect du vivant sous toutes ses formes. Le monde animal, le végétal, ben l'humain, oui. Quel que soit son profil. Voilà, moi je suis une amoureuse de la nature et du vivant. Donc,
Super, ça c'est beau, ça me plaît. Moi aussi c'est pareil. C'est très important et c'est vrai que sous toutes ses formes c'est important. C'est parce qu'il y a ce grand truc de hiérarchisation des êtres vivants qui est quand même assez étrange quand on se met à un niveau cellulaire et quand on se met à un niveau émotionnel. Donc, on ne va pas parler ici de l'intelligence émotionnelle des plantes, mais on va quand même laisser une parenthèse ouverte là-dessus. Est-ce que l'un d'entre vous, ou Jessica, si tu es encore avec nous, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire à ce sujet ? Une chose que tu voudrais changer, si tu pouvais, dans le monde ?
Moi, si je pouvais, ça serait peut-être la fin de l'homophobie et de la transphobie.
Ah ouais ? Okay.
Rien qu'en France, c'est quand même l'impression d'être un pays du tiers-monde. Hein. On va pas se cacher entre les thérapies de conversion et les autres trucs. Des fois, en fait, quand le gouvernement essaye de faire des trucs pour lutter contre ça, en fait, finalement, ils font pas, ou ça prend des années à voter une loi. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi on est aussi lent, en fait.
C'est notre mode de fonctionnement.
En plus, entre ceux du gouvernement qui sont bien homophobes et qui finalement restent dans le gouvernement sans problème, moi je comprends pas trop en fait.
Ouais, d'accord. Ok.
T'es censé représenter le soi-disant pays des droits de l'homme et t'es homophobe quoi.
C'est vrai.
À un moment, faut se poser les bonnes questions.
Oui, merci.
Est-ce que tu es au courant qu'actuellement il y a une femme qui devient.
Donc voilà.
Je pense qu'on va pas avoir le temps, Paolo, malheureusement.
Est-ce que tu es au courant qu'en ce moment il y a une femme qui devient la première candidate trans de l'histoire ?
Voilà, super. Donc encore une belle émission qui se termine, désolé Paolo, mais il faut finir avec un grand élan de positivité, donc ça fait plaisir. Pour l'Asperger Café, c'est déjà les vacances et on se fait une grande joie de vous retrouver à la rentrée le 25 septembre avec toujours plus de sujets passionnants, de rencontres et d'échanges pour cheminer lentement mais sûrement vers un monde qui embrasse la différence et célèbre l'humanité tout entière. Alors, tout comme nous, dites oui à l'inclusion et laissez-vous surprendre.